Nintendo Master.
Bonjour et bienvenue dans le 14e podcast de Nintendo Master. On est à 2 semaines de la sortie de Zelda Skyward Sword et Mario 3D Land. Hein. Alors là, les choses sérieuses se rapprochent.
Hein. Là, ça commence.
Ouais, vivement Mario.
On n'a pas toutes les mêmes priorités. Haruul, c'est là.
Bien sûr, bonjour à tous.
Ça va bien?
Mais très bien, et toi?
Très bien. Crayo, comment ça?
Bien le bonjour tout le monde, ça va très bien.
Donc, bien
très grande
bonjour.
Forme là, là je suis.
Bien le bonjour, mec. Tu commences comme ça, bien le bonjour.
Bien le bonjour, voilà. C'est, ça
d'accord,
peu...
donc ça
à
vous donne déjà un petit. Voilà, c'est ça, donc on est dans les années 50, hein, tout se passe comme ça aujourd'hui.
Ah bah, les années 50, tu t'es pas si loin, Haruul, c'est parce qu'on va discuter de l'impact de Nintendo dans le jeu vidéo. On va remonter un peu le temps et voir finalement les innovations qu'a apporté Nintendo dans le domaine du jeu vidéo au sens large.
J'étais pas loin, mais quand même. Une vingtaine d'années quand même, hein.
Oui, c'est clair que oui, effectivement, dans les années 50, on ne jouait pas encore aux jeux vidéo.
Enfin, si, mais seulement ceux qui avaient une DeLorean et qui pouvaient voyager dans le temps avec un doc.
Les connaisseurs reconnaîtront.
J'ai rien compris. Je vous le
mais
dis.
Mais contre le futur, non, tu sors tout de suite.
On reviendra bien évidemment sur les titres de la semaine, les questions des membres et le jeu d'Arus, bien évidemment, pour conclure. Alors, Arus, dur ou pas cette semaine le jeu?
Un jeu aux petits oignons, pour reprendre une de tes expressions favorites. Hein. Écoute, dur, on verra. Hein. Tu sais, je suis pas très méchant, c'est vous deux qui êtes méchants surtout. Hein. Les gens l'auront bien.
Bon, mais alors faut participer là parce que ça va être facile.
Petit joueur, Crayo.
Non,
t'as pas la difficulté? Tu mets toujours en facile quand tu démarres un jeu vidéo, c'est
ça? Non, mais c'est juste pour souligner que le jeu va être facile.
Crayo joue en facile.
Moi j'ai tellement de facilité dans les jeux d'Arus que c'est tellement simple.
Oh le menteur!
On verra ça tout à l'heure.
Attends, je vais le noyer et puis après on en reparle.
On verra ça tout à l'heure. Allez, on démarre tout de suite avec les news. Sega dévoile son planning de sortie.
Merci, je t'aime mec, c'est exactement ça, Sega, c'est ce truc qui retentit. Oui, donc je vais arrêter de raconter ma vie, je vais vous dire que Shinobi est attendu sur 3DS pour le 15 novembre de cette année, donc 2011 hein, bien sûr.
Personne, j'ai l'impression que personne ne l'attend. Hein.
Il a été un peu taillé quand même, niveau graphisme et tout ça.
Ouais, décevant, bon. On enchaînera ensuite avec Crushed ou Crush 3D, je sais pas exactement comment ils le disent, qui arrivera début 2012 et le 10 janvier pour être plus précis. Et on terminera par les dates de sortie des jeux de notre hérisson bleu préféré. Sur la 3DS d'abord avec fin novembre Sonic Generation, qui est déjà sorti sur les autres supports. Et sur 3DS toujours, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012, qui se tiendront donc à l'été 2012. Le 14 février, jour des amoureux. Mais j'espère que Sonic et Mario fricotent pas ensemble en fait.
Ah ouais, c'est vrai que ça donne. Ça porte à confusion ouais, cette date.
Ouais, vous mettez pas penser à des trucs comme ça, c'est un peu dégueulasse.
Alors, Crayo, est-ce qu'on a des nouvelles de la santé de la 3DS?
Oui, des bonnes nouvelles parce que la 3DS va bien et même très bien. Soyons un peu optimistes quand même après tout ce qu'elle a pris dans la tronche. Donc la 3DS, à la fin septembre 2011, était à 6,7 millions d'unités vendues dans le monde. Donc c'est ce qui est mieux que la DS. Je sais pas si vous rendez compte un peu.
Si on compare à l'époque. Ouais.
Voilà, donc à l'époque, donc la DS est sortie. En l'espace de 7 mois de vente de la DS, elle avait totalisé seulement 6,65 millions d'unités vendues.
Donc la 3DS fait mieux que la DS à son époque.
Mais à quel prix?
Mais à quel prix? Donc oui, donc il y a la baisse de prix
c'est obligatoirement.
C'est même certain, donc la baisse de prix a aidé les ventes à décoller. Mais il faut savoir que la DS était sortie dans le monde à intervalles différents.
Ah oui, aussi.
Donc le Japon, je sais plus, c'était sorti fin 2004, et 3 mois après en Europe. Donc voilà, ça joue un peu dans la comparaison. Mais tout de même, on voit que la 3DS marche bien, surtout au Japon en ce moment. On voit les chiffres, elle tourne environ à 70 000 exemplaires par semaine.
Alors ça y est, comme tu l'avais annoncé, Arulz, apparemment le bundle Resident Evil Circle Pad Pro arrive.
Ne sortira pas, effectivement, comme je l'avais annoncé. Pourquoi tu fais ça?
Alors, je sais pas, on va refouiller dans les podcasts anciens, mais il me semblait...
Mais pourquoi refouillons? Je laisse les membres le faire, je sais que de toute façon, ils me donneront raison, puisque je suis sûr de moi, ou alors je deviens sénile et je vais me faire interner avec Jacques Chirac, mais je suis sûr de moi, je vous ai annoncé et parié qu'il n'y aurait pas de bundle Circle Pad plus Resident Evil sur 3DS, et donc c'est confirmé, il n'y aura pas de bundle. Mais maintenant, je laisse les auditeurs vérifier.
Mais finalement, ça c'est étrange, c'est-à-dire que pour en profiter, il va falloir donc du coup dépenser... on n'a même pas le prix officiel, non, pour l'instant.
Oui, et tu crois pas si bien dire, n'est-ce pas, Crayo?
Ouais, il va falloir dépenser... Alors, plus pour le Circle Pad Pro si on en a envie.
Attends, c'est le nom et pour le moment, hein. On n'est pas
voilà,
sûr.
Voilà, hein. Et plus pour le jeu en lui-même, car les jeux 3DS sont vendus en moyenne 40 euros, si on accepte un revendeur que l'on connaît, qu'on le connaît tous. Donc voilà,
oui,
40 euros.
Parlons pas de Micromania. Oups, pardon.
Mais Capcom vient d'annoncer que le titre sera 10 dollars en moyenne plus cher aux États-Unis. Donc on imagine que ce sera un peu la même chose chez nous en Europe.
Oui, hein, on a la conversion 1 euro, 1 dollar hein, ici. Hein.
On est voilà. Habitué, oui.
Et donc voilà, 10 euros un peu plus cher pour une raison de taille de la cartouche qui apparemment sera un peu plus élevée que la moyenne.
Effectivement, elle aura 4 gigas, donc c'est le double en fait. Hein.
Vous trouvez ça justifié ou pas?
Pas une seconde.
Tout dépend de la qualité du jeu, j'ai envie de dire.
C'est honteux, les jeux sont déjà chers. De base, nous rajouter encore 10 euros pour acheter le jeu, plus les 15 euros hypothétiques pour le Circle Pad, ça nous revient à un jeu de salon. Moi, j'achète un jeu de salon à ce prix-là. Hein.
Ah, on n'est pas obligé d'acheter le Circle Pad en même temps.
Alors, on le disait en intro, finalement, le jeu vidéo n'a pas une longue histoire, hein, puisque... sa création remonte
à... trentaine d'années, on va dire.
Voilà, une trentaine d'années, grosso modo. Bon, c'est pas le cinéma, c'est pas la littérature, encore moins.
Non, ouais, c'est sûr.
Mais alors, justement, quel rôle a joué Nintendo dans l'évolution globale du jeu vidéo? Quel a été son impact sur le jeu vidéo dans son ensemble? Eh bien, c'est l'objet de notre débat. Alors, j'aurais envie de commencer par une des choses peut-être essentielles du jeu vidéo, qui est ce que l'on tient entre nos mains, la manette. Et alors, à ce niveau-là, il faut dire que Nintendo a apporté beaucoup des évolutions sur ce domaine.
C'est vrai. Par exemple, sur la manette jeu, ça a été les premiers à nous lancer une croix directionnelle.
Voilà, c'est vrai que ça peut...
Sur la NES, première manette de Nintendo, on va dire, rectangulaire. Rectangulaire plutôt.
Oui, rectangulaire, pardon, c'est vrai.
Ouais, donc la croix directionnelle et ses deux boutons, je pense que tout le monde l'a en tête. Ça a été réutilisé après.
Elle a quatre boutons, hein, la NES, hein.
Là, oui, je compte pas hein. Le Start
ah, oui.
Et Select.
Start et Select.
Mais la croix directionnelle, ça a vraiment lancé les... C'est grâce à ça que maintenant on peut vraiment jouer.
C'est fou parce que la croix directionnelle, à l'époque, Nintendo l'avait fait dans des buts de réduction de coûts. Parce qu'il pouvait pas mettre de joystick.
Oui, à main.
Le joystick, comme on est sur les Amstrad et tout, là, je sais pas celui, c'est gros joystick.
Oui, les gros machins.
Les Atari 2600.
Exactement, ils avaient fait ça donc. Par souci d'économie. Et alors, c'est assez drôle, parce qu'à l'époque, du coup, tout le monde avait, notamment la presse qui était très habituée au micro-ordinateur, oh là là, mais c'est quoi ce truc absolument pas ergonomique.
Et pourtant, qu'est-ce que c'est beaucoup plus pratique que les joysticks à main, je trouve. C'est beaucoup moins précis. C'est beaucoup moins précis un joystick à main que c'est cette petite croix directionnelle qui a vraiment révolutionné le monde du jeu. Hein.
Surtout avec le joystick à main, c'est que t'as ta main sur le.
Oui aussi, ouais.
Le manche. Bon après, tu as toujours des boutons dessus, mais la croix directionnelle.
Je me rappelle
vraiment...
sur Atari 2600, il y avait un bouton au-dessus rouge.
Oui, c'est vrai. Puis alors, c'est une nouveauté que Nintendo a imposée sur la durée. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les manettes... Et alors, ça, c'est drôle. Je sais pas si vous avez regardé, mais... Donc, Nintendo a breveté, évidemment, la croix directionnelle.
Oui.
Tu m'étonnes.
Et personne n'a le droit de faire une croix directionnelle sur sa manette. Alors, je sais pas si vous avez vu sur PlayStation.
Elle est décalée, ouais, c'est ça. Elle est coupée.
Oui, ouais, exact.
Elle est coupée.
C'est quatre boutons. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Qui sont en forme de croix.
Sur Xbox,
c'est un rond.
Alors, sur Xbox, elle est à chier cette croix directionnelle.
Alors, elle est à chier au départ, mais on n'est pas sur un podcast Xbox, mais ils l'ont refaite différemment. Mais
oui, c'est plus un rond en fait.
C'est plus
Xbox.
Un rond avec une croix dessinée dessus, mais voilà. Bon, c'est pas la croix de chez Nintendo, donc ils n'ont rien à dire.
On ne sait pas trop ce que c'est. Mais...
C'est toujours drôle de voir comment ils essayent chacun de contourner le.
Bah, ils n'ont pas le choix en même temps.
Ils vont se prendre un procès dessus, tu vas voir. Non, ils n'ont pas le choix, c'est clair.
Ouais.
Donc voilà, Nintendo, dès sa première console, a vraiment imposé cette innovation. Et puis alors, ne s'est pas contenté de juste l'améliorer pour sa console d'après, puisque la manette de la Super Nintendo était la première manette à introduire le principe des gâchettes.
Ouais, donc encore une excellente idée, j'ai envie de dire, puisque ça permettait déjà d'avoir plus de boutons à portée de main.
Et de déraper dans les jeux de cartes.
Voilà, ou de tirer dans les FPS. Je sais pas si on pouvait encore appeler ça des FPS à l'époque. Mais voilà, après, donc ça, toutes les consoles l'ont eu. On voit la 3DS aujourd'hui, la GameCube qui avait des super gâchettes.
Mais la manette de la GameCube, on l'a déjà dit, mais ça reste la manette la plus ergonomique au monde.
Ouais, puis la 64 qui avait des gâchettes tout le temps placées au même endroit, et celle qui était derrière, le bouton Z.
Oui.
Donc voilà, ça a été repris par tout le monde, les gâchettes.
Alors c'est marrant parce que finalement, les gâchettes sont arrivées d'un souci assez simple, c'était qu'il y avait besoin de plus de boutons, puisque pour multiplier les fonctions. à ça, Sega fait quoi? A mis plus de boutons.
Ouais. Voilà.
Je sais pas si vous vous souvenez ce pad sur le Mega Drive.
Le 6 boutons de chez Sega, qui nous a fait beaucoup rire, mais qui était quand même pas énormément utilisé quand même chez Sega. Ouais. 6 boutons.
Mais alors, pour le coup, c'est vraiment une idée. Parce que, évidemment, aujourd'hui, ça paraît tellement naturel et tellement logique, mais il faut se dire à l'époque. De dire bon on va mettre une bouton sur la tranche de la manette,
c'est clair que c'est
idée de Miyamoto hein, d'ailleurs il me semble.
Ah c'est Miyamoto qui est...
il me semble hein, je suis pas sûr à 100% mais il me semble avoir lu. Ouais.
Bah, la preuve que ça a marché puisque tout le monde aujourd'hui l'utilise avec les doubles gâchettes, les gâchettes un peu plus avancées, enfin il y a eu tellement de...
C'est ça, c'est comme pour la croix directionnelle hein. C'est on a repris l'idée mais de façon différente pour pas qu'on dise qu'on a copié sur telle personne.
Donc à chaque nouvelle génération, sa nouveauté sur Nintendo 64, c'est le joystick qui fait son apparition. Alors le joystick ?
Non, le stick analogique.
Ah bah alors, tu fais bien de le dire, oui, effectivement, parce que on aurait pu croire que justement Nintendo allait reprendre ce système de gros joystick, donc comme on se souvenait sur les... Mais non, en fait, ils ont retrouvé un système qui est absolument génial, en fait.
Mais révolutionnaire, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Ce petit stick sur le pouce, mais c'est magnifique, c'est tellement pratique, c'est tellement... bien pensé, pourquoi pas avant, on peut même se demander.
C'est assez drôle parce que les fabricants d'accessoires, vous savez, qui adorent toujours customiser un peu nos manettes, etc. Moi, je me souviens d'un joystick qui était sorti sur Game Boy, et donc qui se clipsait par-dessus la croix et qui permettait d'avoir un joystick. Mais c'est un joystick toujours avec cet ancien principe, c'est-à-dire que c'était une baguette et on le prenait avec les doigts.
Être super mal jouable. Hein.
Ça devait être assez mal foutu.
Oh la vache!
L'idée de couper finalement le joystick pour ouais, au lieu de le tenir, de juste poser son pouce, c'est clair.
Poser son pouce.
Ouais, il faut signaler quand même, celui de 64 faisait un peu mal au pouce. Je me souviens.
C'est les jeux qui étaient assez barbares.
Voilà, dessus, c'était ça, ouais. Assez barbare. Mais
Mario Party, si tu nous entends. Alors c'est marrant parce que la paternité de ce joystick finalement, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à la donner à Nintendo. Mais alors il y a toujours un peu le débat. Souvent, ouais. On voit ce débat sur le forum avec Sega. Sega avait sorti Knights. Alors a priori, de ce que j'ai compris, c'est que Nintendo l'a présenté avant, mais Sega a quand même réussi à le sortir sa version, voilà, sa manette avant Nintendo. Donc voilà, la paternité du joystick qui est toujours un peu sujette au débat, même si a priori c'est quand même Nintendo qui a lancé l'idée.
Le premier quoi. Là où c'est intéressant, c'est que Nintendo ont été les premiers à penser à des boutons pour la caméra. Alors, ça n'avait pas encore une forme de stick analogique, mais pour contrôler une caméra, ils se sont dit pourquoi ne pas utiliser des boutons pour déplacer directement sa caméra.
Ah, c'était les quatre boutons jaunes qui étaient en haut à droite de la en haut à droite de la manette 64. Et donc après, Sony a utilisé le second joystick.
Un stick analogique, bien sûr.
Voilà, ce qui s'est répercuté sur la manette GameCube que l'on connaît tous.
Exactement. Qui, elle, par contre, a vraiment son appellation de C pour caméra, hein, qui reprend exactement la même chose, donc le petit bouton jaune, les petits boutons jaunes de la N64. Et là où on se demande pourquoi, sur la Nintendo 3DS, ils ne nous ont pas mis un deuxième stick, alors que pourtant, ils nous les mettent sur la console de salon. Je ne comprends pas cette régression de chez Nintendo.
Ouais, ils l'ont fait, mais bon, on sait comment ils l'ont fait. Mais
non, mais c'est une erreur de base.
Peut-être parce qu'il y a des substituts, en fait, sur 3DS, il y a l'écran tactile.
Oui, voilà. À mon avis, Nintendo était buté sur ses idées gyroscopie,
aussi,
stylet.
Oui.
Sincèrement, est-ce que avec ton stylet dans une main, tu tiens donc ta console dans l'autre,
oui,
et tu vas déplacer ta caméra comme dans Kid Icarus, que tout le monde dit que c'est une horreur.
Ouais.
Tu vois ça sur tous les jeux.
On l'a fait pendant 6 ans avec la DS, mais bon.
Je trouve ça horrible.
Nintendo, ils sont butés, ça leur a apporté
préjudice.
Ça a été très bon pour eux. On voit tout ce qui a été fait, les croix, tout ça, ils y ont cru.
Oui.
Là, ils ont cru à quelque chose qui était malheureusement
une mauvaise idée.
Pour moi,
c'est une mauvaise idée de chez Nintendo, clairement. Et ils se rattrapent comme ils peuvent aujourd'hui en nous sortant un Circle Pad Pro.
Il faut mieux ça que rien faire. J'ai envie de dire.
Oui, bien sûr. Mais il savait très bien de base que le problème serait présent sur ce deuxième stick absent. Et là où ils vont se faire flinguer par Sony, c'est qu'il est de base sur sa console quand même.
C'est marrant parce que finalement, sur Nintendo 64, Nintendo avait conscience, alors que c'était la première console qui proposait des jeux en 3D, Nintendo a tout de suite eu conscience de ce problème-là et a apporté la solution avec les boutons C, comme tu le dis. Alors que c'est marrant, c'est vrai qu'avec tant d'années d'expérience, de l'omettre, c'est...
C'est ça, de l'enlever après,
avoir
été les précurseurs de la caméra.
Alors c'est marrant parce que la manette de la 64, finalement, n'a pas apporté que le joystick et la présence des boutons caméra, c'est aussi les vibrations.
Oui, le Rumble Pack, il me semble.
Voilà, exactement.
C'est excellent, Rumble Pack.
Le Rumble Pack, donc encore une console en kit.
non, mais, ouais,
une
non,
manette
mais...
en kit où on rajoute des accessoires.
C'est pas faux,
c'est pas faux, mais c'est arrivé après le Rumble Kit. Il est arrivé 2 ans peut-être après, donc ils
mais
se sont
même,
dit tiens,
c'est quand même en kit. C'est se dire ah, tiens, et si on avait pensé à mettre des vibrations sur notre manette.
Ouais, toutes les consoles sont un peu en kit. Hein,
ouais, mais d'un côté, honnêtement, bon, c'est vrai que ça alourdissait un petit peu la poids de la manette.
Pas mal même. Hein.
Mais en définitive, c'était quand même, voilà, c'était quelque chose
d'excellent.
Mais c'était une révolution, clairement. Hein. Mais voilà, bon, on te dit encore, on va vous vendre un truc.
S'ils y avaient pensé avant, crois-moi, ils l'auraient fait.
Même si c'était quand même, faut le dire, en bundle avec Star Fox.
S'ils y avaient pensé avant, ils l'auraient fait parce qu'ils étaient déjà mal en point avec la PlayStation. Ça aurait été, je pense qu'ils auraient pris l'idée directement.
Ouais, ça c'est marrant parce que je me souviens même qu'au Japon ils avaient ressorti, et la preuve qu'ils avaient pas vraiment imaginé la chose à la base, ils avaient même ressorti Mario 64 et Wave Race dans des nouvelles éditions compatibles avec le kit vibration.
Ouais, sympa.
Ça c'est fort ça, marketingment parlant. Et on voit qu'aujourd'hui la vibration est une chose extrêmement importante pour les joueurs, parce que on va juste sortir 2 petites secondes de chez Nintendo pour parler de la manette de la PS3 de base qui elle n'avait pas de vibration. Qu'est-ce que ça a gueulé quand ils ont annoncé cette manette, et depuis ils ont sorti leur DualShock 3 en mettant la vibration, même avec un petit système assez sympathique de vibration localisée sur sa manette. Bon, on referme la page hors Nintendo, mais c'est
ça montre
chose,
oui, c'est sur l'importance
pour les joueurs aujourd'hui d'avoir de la vibration. Alors, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un Circle Pad Pro Rumble?
Bon, là, je sais pas.
Tout est possible avec Nintendo aujourd'hui. Hein.
Ah oui, c'est clair, tout est possible.
On se rappelle tous des cartouches qui avaient pour la Game Boy, qui avaient un Rumble avec elle. Hein, donc on se dit finalement, on peut très bien ajouter un Rumble Pack sur ce stick. Hein.
Et je dis pas non, franchement, je dis pas non.
Bah c'est quelque chose d'important, comme on
dit.
Pour
la 3DS, ça va être un peu galère si ça vibre et que la 3D, on voit plus.
Ah oui,
c'est un peu emmerdant, effectivement. Mais tiens bien ta console en main et ça vibrera pas.
Alors on le voit, hein, donc Nintendo a apporté énormément d'innovations sur les manettes de manière générale, hein, parce que toutes ces innovations évidemment sont répercutées chez la concurrence, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les manettes se ressemblent un peu toutes. Justement, à l'époque GameCube, Xbox, PS2, donc DualShock 2, pad de la Xbox et le pad de la GameCube étaient assez semblables.
C'est vrai. C'est vrai.
Et là, patatras.
Ouais, patatras, c'est clairement le mot, hein. Patatras. Ouais.
La Wiimote.
Il y a pas d'autre
mot. La Wiimote. Alors là, c'est pour le coup, Nintendo a un peu fait table rase, parce que à chaque fois, ils incluaient les innovations d'avant et voilà, ils amélioraient.
Ils ont pas tout enlevé. Et la croix, le joystick, les vibrations quand même.
Non, c'est vrai. Mais en tout cas, dans le principe,
elles sont si mauvaises ces vibrations sur la manette de la Wii. Oh là là.
Ouais. Enfin, oui, je le trouve pas moi.
Alors justement, la Wiimote apporte plusieurs choses. Elle apporte
détection de mouvement déjà.
Le pointage. La fonction pointeur finalement.
Naviguer dans les menus ou dans les jeux, les FPS et tout ça.
Des gadgets.
Gadgets, bah pour les FPS.
Je suis pas d'accord.
Pour les FPS, je suis pas d'accord.
Oh, c'est gadget.
Tu vois, dans le FPS, t'as le FPS PC qui est au-dessus de tout. Pour moi, il y a la Wii en dessous et après les consoles.
Malade.
Ah si, non, mais je suis complètement d'accord avec Crayon.
Jouer à deux joysticks et un FPS, c'est assez mauvais.
Vous êtes des malades. Non. Jouer avec deux sticks analogiques, c'est beaucoup mieux que jouer avec...
Non, je suis pas du tout d'accord.
Je suis pas...
Tu demanderas à toutes les personnes aimant les FPS, je suis sûr qu'il y en aura une grande partie qui seront d'accord avec
nous. Déjà, s'ils aiment les FPS, ils joueront sur PC déjà.
Oui, c'est pour ça, j'ai PC.
Mais franchement, non.
C'est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus naturel.
Non.
De pouvoir viser instantanément.
Mais on l'a vu avec le PS
viseur.
Move, c'est un échec total.
Bah moi sur Wii, sur GoldenEye j'ai adoré, sur Red Steel j'ai adoré, même si le jeu est moyen.
Moi sur GoldenEye je jouais avec la manette classique.
Bah moi je trouve que c'est une grosse erreur, mais après chacun ses
goûts. Alors c'est marrant parce que autant finalement les innovations dont on parlait avant se sont imposées de manière indiscutable, on va dire, peut-être pas le joystick, il y a toujours des puristes avec la croix, notamment sur les jeux de combat. Mais finalement, alors cette nouvelle façon de jouer, là, Wiimote fait pas l'unanimité.
Maintenant, ça, on retourne dans le même schéma. Hein. Gâchette, stick, ça avait tout avait été pris par la concurrence. On voit aujourd'hui, tout a été repris par la concurrence aussi, avec le Move et Kinect d'une manière
Que ça va devenir un standard? Parce que ce qui est très étrange, c'est parce que là, maintenant, on le sait, on a l'aperçu de la prochaine génération de consoles de Nintendo. Les Wiimote sont conservé, mais finalement le nouveau contrôleur fait machine arrière.
Ouais, voilà, totalement.
Ouais,
rien à voir.
Machine arrière. Ils se sont rendu compte, je pense, entre guillemets, d'une certaine erreur sur certains joueurs. Non, je le dénigre un petit peu, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui l'apprécient. Hein. Vous êtes deux personnes qui
l'apprécient. On l'apprécie pour différents,
je pense notamment à Trauma Center. C'est absolument
génial.
La Wiimote.
Des jeux faits pour ça, je suis d'accord. Des FPS, non. Mais on parlait de FPS tout à l'heure.
Mais
Trauma Center à la Wiimote, c'est génial. On est d'accord. bien sûr, l'iPhone Wiimote, tu fais ça aujourd'hui avec un stick, tu peux pas, c'est juste pas possible. Non, on parle vraiment de FPS. Par contre, on parlait d'innovation de Nintendo, là, pour moi, c'est pas une innovation, hein, la nouvelle manette, la Mablette, là, hein, c'est clairement copié de l'iPad, autre chose, mais avec des boutons, avec des boutons physiques. Hein,
On oublie quand même, on l'oublie d'ailleurs trop souvent pour la Wii U, c'est l'interactivité avec la télé, on va pas revenir dessus. D'accord. Mais
si, on va y revenir là-dessus, parce que c'est un brevet déposé par Sony, monsieur.
Oui, mais bon, là, Sony, ils ont rien sorti encore, donc pour l'instant...
Ils l'ont pas sorti, mais ils détiennent le brevet, et je pense que la console est entre guillemets retardée aussi par rapport à des problèmes de brevet.
Ça, c'est pas... ils ont de l'argent, ils vont s'arranger entre eux, je pense.
Enfin bon, pour moi c'est pas une innovation entre guillemets de Nintendo, c'est déjà quelque chose qui existait déjà, surtout quand on a un écran qui n'est même pas multipoint, qui au jour d'aujourd'hui est un scandale.
Donc ça c'est pour tout ce qui est matériel, hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour, donc c'est vrai, de l'apport de Nintendo dans les contrôleurs.
Dans le hardware en général, ouais, c'est ça.
Mais évidemment, en termes de mécanique de jeux vidéo, Nintendo a aussi beaucoup apporté, et on va prendre un exemple, je pense, assez flagrant dans ce domaine, c'est Ocarina of Time.
Qui a apporté énormément de choses dans le jeu vidéo, dans les jeux d'action, enfin d'aventure, on va dire.
Alors, qu'est-ce qu'il a apporté
De tête, comme ça, je dirais le lock, donc locker les ennemis.
Alors ça, alors là, le lock.
De tête, mais en lisant mon papier. Hein.
Alors justement, le lock... ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que en fait, c'est encore une des problématiques de la 3D finalement. Avant, sur un plan 2D, c'était très facile d'affronter un ennemi, il suffisait de sauter dessus ou d'aller vers lui.
Clairement.
Mais en se déplaçant en 3D avec un ennemi qu'il fallait toucher et tout, ça devenait un peu compliqué. Et finalement, Nintendo a introduit le lock.
Grâce à la gâchette, au passage.
Exactement.
Donc voilà, ça permettait de se centrer directement sur un ennemi. Et, c'était largement plus facile. Et encore aujourd'hui, on voit que tous les jeux, quasiment tous les jeux évidemment.
Beaucoup, beaucoup de jeux, mais même sur console concurrente. Hein.
Ouais, se servent du lock. Donc une évolution, une révolution même dans les jeux d'aventure, j'ai envie de dire.
Il y avait aussi l'apparition du bouton, disons, multifonction, finalement, le bouton A.
Le bouton A, oui. Donc, dans Zelda Ocarina of Time, je ne sais pas si vous... Enfin, vous voyez, je pense, dans tous les Zelda, maintenant, c'est utilisé dans bon nombre de jeux. Donc, le bouton A servait à plusieurs choses, en fait. Faire une roulade, si on s'approchait des ennemis, faire une attaque sautée, il me semble que c'était comme ça, parler, entrer dans les maisons. Enfin, énormément de choses à faire, seulement avec un bouton.
Donc, finalement, on avait ce bouton principal qui changeait de fonction... selon l'environnement, en fait.
Voilà, donc c'était une forme d'ajouter des boutons sans vraiment en mettre sur le hardware. Donc
ça paraît tout bête, c'est vrai. Aujourd'hui, on se dit que c'est quelque chose d'assez élémentaire, et pourtant, c'était l'un des premiers jeux à le faire. Quoi.
Voilà, Ocarina of Time, c'est un peu le jeu qui a, on va dire, démocratisé tout ce qu'on raconte là, le bouton A, le lock.
Donc finalement, c'est vrai que Ocarina of Time a posé les bases du jeu, en tout cas, beaucoup de bases du jeu 3D d'aventure et d'action. Plus récemment, alors il y a quelque chose qui a fait beaucoup débat, puisque manière générale, on va dire que la difficulté des jeux
a été un petit peu revue à la baisse. Hein.
Ouais, que ce soit sur Nintendo ou sur tous les
jeux. Oui,
sur
tous jeux. Voilà, je pense que le constat est un peu plus accessible.
Ouais, le constat est général, les jeux sont beaucoup plus faciles, trop faciles. Je crois que d'ailleurs Zelda Wind Waker, il y en a beaucoup qui en parlent comme Zelda les plus faciles.
Un des plus faciles.
Le premier que j'ai fini, moi. Donc oui, je pense que c'est un des plus faciles.
Alors finalement, Nintendo. A lancé le Super Guide. Alors le Super Guide, ça consiste en quoi, Créo ?
Donc le Super Guide, donc c'est donc voilà, si vous mourrez plusieurs fois dans le jeu, vous avez la possibilité. Attention, la possibilité, c'est pas imposé. Hein, vous avez la possibilité.
Heureusement.
La possibilité d'avoir une
petite vidéo. Voilà. Qui vous montrera le déroulement du niveau, en fait, qui vous montrera comment accéder jusqu'à la fin du niveau. Et à la fin de cette vidéo, on a le choix soit d'accéder directement à la fin de ce niveau, ou alors de se dire « Ah, on a vu la vidéo, on sait à peu près comment ça va se passer, on revient en arrière, on revient au point où on en était, et on se fait le niveau soi-même. » Mais on a vu une petite vidéo explicative.
Ça, je trouve ça tout con comme système, mais je trouve ça tellement bien pour ceux qui sont pas forts en jeu vidéo, qui jouent pas énormément.
Parce que justement, le truc, c'est que quand Nintendo a annoncé ça sur donc c'est New Super Mario Bros. Qui a lancé ce principe-là, tout le monde a crié au scandale comme un
je suis pas pour.
Pour un pas en avant. Encore plus vers la facilité.
Mais t'es pas obligé de l'utiliser, donc
non,
tu vois
pas
pourquoi
je suis d'accord. Mais moi, je préfère. Mais le problème, c'est que t'es dans le jeu, t'appuies sur tes boutons pour revivre, et d'un coup, tu vas déclencher ton super guide. Tu vas déclencher ta vidéo. Putain, je veux pas la voir, moi, la vidéo. Je veux moi, me faire le niveau, me prendre la tête même sur le niveau des heures, quitte à balancer la manette par terre, quitte à éteindre ma console et revenir le lendemain. Mais j'ai pas envie qu'on me montre comment faire. Sinon, il y a des vidéos, il y en a 4000 sur internet.
Mais
et si tu le déclenches par hasard,
tu peux pas, c'est plus, attends. Et après, faut que tu mettes oui. Donc, c'est
et
pas possible.
Attends, Rulz, si tu plonges par hasard dans la lave dans Mario, excuse-moi, quoi. C'est pas
et bah, des fois, je plonge par hasard dans la lave dans Mario en tombant d'un bloc. Mais c'est pas la question.
C'est marrant parce que je trouve que c'est. La solution magique qu'a trouvé Nintendo avec le super guide,
eh oui,
parce que ça leur a permis de considérablement augmenter la difficulté des jeux, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que New Super Mario Bros. Wii n'est pas un jeu facile.
Donkey Kong
c'est un très bon exemple.
C'était vraiment,
je pense que voilà, Donkey Kong c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire que Retro, alors, c'est ouf, hein,
super dur.
Un jeu super dur.
Oh là là.
Et sans pénaliser les gens qui ont du mal, parce que voilà, les gens qui ont du mal, ils ont cette alternative.
Ils ont droit, franchement, ils ont droit. S'il y en a qui ont du mal, ça les énerve, après ils arrêtent de jouer. Autant leur proposer de les aider pour qu'ils voient un peu plus que les trois premiers niveaux du jeu, quoi.
Alors le super guide, donc nouveauté pour l'instant que j'ai pas vu, quoique j'avais entendu parler, il me semble, un moment. D'un jeu chez la concurrence qui avait incorporé ce système-là, mais on imagine en tout cas que le Super Guide va faire sa place dans la plupart des jeux à l'avenir.
Sauf s'ils veulent vendre des guides papier pour éviter de.
Oui, ça n'existe plus, ça, les guides papier, je trouve.
Ça existe toujours.
Il y a Internet.
Ça existe toujours et ils le vendent même en édition collector aujourd'hui, on le voit pour Uncharted 3 par exemple.
Alors si non seulement pour vous, les jeux vidéo c'est trop compliqué, mais en plus de ça, c'est juste quelque chose qui est occasionnel, alors forcément il y a le casual gaming que Nintendo a démocratisé.
Clairement,
sur cette génération.
Encore un impact de Nintendo.
Alors là l'impact se fait vraiment sentir. Ça a été d'abord sur DS, puis sur Wii.
Avec Kawashima et Nintendogs, on peut citer ces
deux-là. C'est vrai que c'est peut-être un peu les prémices.
C'est ce qui les a lancés clairement dans le casual gaming. Hein. Il n'y a pas photo, hein. c'est ces deux jeux-là. Hein.
Alors quand on voit aujourd'hui les conférences, notamment E3 de Sony et de Microsoft, enfin surtout Microsoft, on va dire.
Surtout Microsoft, oui.
Microsoft qui a acheté Kawashima pour sa Kinect, hein, par hasard. Hein.
Ah ouais, c'est vrai. Et puis alors voilà, Kinect. Très axé
casual mais grave.
On attend toujours les jeux.
Ouais, tu peux toujours les attendre.
Ouais, enfin, apparemment ils arrivent, mais on va prendre très
jamais.
Donc voilà, encore une fois, l'impact de Nintendo. Mais alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous appréciez cette nouvelle vision du jeu vidéo? Alors, tout de suite, donc sur Skype, on a Sorrento. Ça va, Sorrento?
Bonjour à tous.
Salut.
Alors, Sorrento, toi, qu'est-ce que tu penses du casual gaming? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas?
Alors, pour moi, il y a deux casual gaming, entre guillemets. Il y a le bon, je pense que certains diront... par exemple, on prend Wii Fit, il marche vraiment, il permet vraiment de perdre du poids, il est intéressant. Et puis, tu as le mauvais casual, comme Pékin Express Wii. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu.
Oui, les dérivés des licences.
Je dirais que ce n'est pas du casual gaming, c'est un peu de l'arnaque gaming. Voilà, gaming.
Oh, c'est bien dit.
Totalement d'accord.
Ouais. Voilà. Boyard, Pékin Express.
Dans le principe de dire NCIS, tout le monde, ça peut être amusant. Oui, le casual, ce n'est pas dangereux. Après, il faut avoir des limites. Il faut se dire... Est-ce que, par exemple, on propose aux gens au casual des jeux comme Sport Island, ils ne vont plus racheter de jeux. Oui.
Mais tu vois, il y a pour moi Wii Play, enfin ouais, Wii Party même, j'ai envie de dire, c'est même du casual gaming, mais du mauvais casual gaming en termes de qualité.
Mais t'es un malade, c'est
parce que comme Mario Party, c'est aussi du casual. Pour moi, c'était Wii Music, tu vois. Wii Music, c'était vraiment.
Oui,
non,
voilà,
Wii Music,
c'est un peu
on
pareil.
A décidé de plus jamais en parler. Alors, toi, justement, sur Anto, t'achètes des jeux typés casual gaming ou pas?
J'ai personnellement Wii Sport Resort, on peut dire que c'est un peu casual.
Oui, c'est du bon casual, moi je trouve.
Tetris aussi, hein, je télécharge Tetris par exemple sur la DSiWare ou sur la Wii. Party, hein, je parle bien sûr. Hein.
Est-ce qu'on peut considérer Tetris comme un jeu casual?
Ah, mais complètement.
Oui,
pense.
Bien sûr.
Ouais.
Moi, je pense
oui, il est considéré comme casual, mais on peut jouer de manière hardcore pour avoir
pour le score.
Ah, voilà. Donc il y a deux façons différentes.
Bah, moi, j'ai tous les trophées platine de Wii Sport Resort, on peut considérer que même.
Les trophées platine.
Exactement.
Ouais, c'est compliqué.
C'est-à-dire que même.
On peut avoir des... En fait, un bon jeu casual, c'est un bon jeu qu'on pourrait avoir des utilisations hardcore gamer, presque, on pourrait dire.
Exactement, c'est un bon jeu casual, exactement. Comme tu le dis, c'est un jeu où on peut aller chercher la difficulté quelque part.
Il y a du défi, on se donne nous-mêmes nos propres
défis. Voilà. Alors que, par exemple, un jeu comme Pékin Express, il n'y a pas de défi, quoi.
Si, à combien de mètres on va pouvoir lancer le CD?
Mais écoute, merci beaucoup, Sorrento.
Bah, de rien, je vous remercie beaucoup. Et puis, continuez vos podcasts, hein, n'hésitez pas. Hein.
Merci à toi.
Ciao.
À la prochaine.
Et allez, tout de suite, on prend quelqu'un d'autre. Wad est avec nous. Salut Wad, ça va bien?
Salut, Bien et vous?
Bah très bien, merci.
Nickel.
Très très bien. Alors Wad, toi, qu'est-ce que tu penses du casual gaming? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas?
Oui, moi je pense que c'est une bonne chose parce que, on va dire, philosophiquement parlant, je pense que ça ouvre le jeu vidéo à plusieurs sortes de gens, on va dire.
D'accord, toi tu...
Ça ouvre le jeu vidéo, quoi.
D'accord. Toi, tu achètes des jeux typés casual gaming ou pas?
Pas trop. Donc c'est vrai que je suis mal placé pour en parler un peu, mais je connais des gens qui aiment bien, quoi, on va dire.
Et est-ce que t'es pas inquiet, vu que toi, justement, tu dis que tu achètes plutôt des jeux traditionnels, que Nintendo ne parte pas trop dans la direction casual gaming au point d'abandonner les jeux plus traditionnels?
Alors, c'est vrai que ça fait peur, ça. C'est vrai que ça fait peur. Mais bon.
Mais moi, je trouve que le casual gaming, c'est aussi une bonne chose, parce que si le jeu vidéo en est là aujourd'hui, s'il est aussi connu, on va dire, c'est que c'est grâce un peu au casual gaming, tous ces gens qui jouent, tous ces nouveaux joueurs, c'est un peu grâce à ce type de jeu et aux nouvelles technologies qui se sont développées, type iPhone et autres smartphones. Pardon.
Smartphone.
Bah écoute, merci beaucoup, Wad, pour,
merci
pour ta participation.
À la prochaine, de toute façon.
Ciao.
Ouais. À une prochaine, bye. Alors, les membres semblent plutôt bien apprécier le casual gaming, hein, finalement.
Oui, effectivement. Mais sincèrement, j'aime le côté hardcore dans les jeux, moi. C'est ce que je préfère. Mais de temps en temps, t'as envie de t'aérer un petit peu l'esprit, mais t'as envie de jouer. Et pourquoi pas un petit peu de casual gaming?
Il faut choisir les bons jeux casual gaming, c'est tout. Après, il y a évidemment des jeux de merde, franchement, on peut le dire, des jeux à trappe.
Bah, comme on l'a dit, hein, avant, avec notre auditeur juste précédent, Pékin Express, les Fort Boyard, les trucs comme ça.
Il faut juste bien les choisir et on s'amuse autant qu'un jeu compliqué.
Donc finalement, on le voit donc avec cette série d'exemples, Nintendo a eu une vraie influence sur le jeu vidéo. Alors l'est-il toujours autant et le sera-t-il toujours autant?
J'ai envie de dire qu'avec la 3DS déjà, donc ils ont apporté la 3D sur une console sans lunettes, portable. Déjà.
Mais alors est-ce que ça...
Bon, alors, on peut pas dire encore que ça a l'impact.
Alors est-ce que Nintendo, c'est bien que Nintendo l'ait fait, mais est-ce que c'est, parce qu'on le voit par exemple avec Sony, c'est vrai que Sony...
Ils ont choisi de ne pas le faire, justement.
Ils ont choisi de ne pas le faire.
Pour des raisons de coût, je pense, parce que déjà...
Mais aussi parce qu'ils y croyaient pas spécialement à la 3D sans lunettes et que ça allait un petit peu, selon eux, altérer les graphismes.
Mais alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'appareils photo, téléphones portables qui arrivent qui commencent
avec un écran 3D, sans lunettes, bien sûr.
On parle même...
D'un iPad 3.
Voilà. D'Apple qui pourrait. Alors voilà, c'est ça, le problème c'est que c'est des rumeurs.
C'est des rumeurs, mais j'y crois pas. Je pense pas qu'Apple se lance dans la 3D sans lunettes à l'heure actuelle. Mais bon.
C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt la 3D sans lunettes, mais au moins ils ont tenté de le faire. Et
est-ce que tu penses que justement c'est un impact qui se fera sur la durée?
Est-ce que ça va avoir un impact sur la durée? Je sais pas. Pour l'instant, ça a un impact sur leurs finances.
Mais c'est présent déjà.
Donc c'est au moins un petit impact, hein. Mais on peut pas encore le dire aujourd'hui si ça a eu un impact
et
réel.
Et moi pourtant, je suis vraiment friand de ce genre de nouveauté. Hein.
Ouais,
je trouve que ça apporte quelque chose à une console portable d'avoir de la 3D sans lunettes. C'est quelque chose qu'on pouvait pas imaginer il y a quelques années quand même. Quand on voit les graphismes de la Game Boy et qu'aujourd'hui on voit la 3DS, qu'on a fait un bond mais magistral en avant.
C'est surtout avec le cinéma, quand on nous a annoncé qu'il y a une nouvelle console qui allait sortir en 3D sans lunettes, je pense qu'on a tous été un peu sceptiques sur le 3D sans lunettes.
Mais clairement, je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être joli à voir?
Mais dans un laps de temps un peu plus court, on voit que déjà le dernier impact de Nintendo, ça a été le jouer comme vous bougez.
Ouais, un impact, je suis d'accord, mais est-ce que c'est vraiment un impact très positif? Je suis pas certain que ce soit très 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 positif.
Je pense que un des jeux qui va être déterminant, mais vraiment,
c'est Zelda.
Ça va être Zelda.
Ah bah oui.
Parce que de proposer un jeu d'aventure aussi long et aussi
basé sur ça,
aussi riche, basé uniquement là, enfin basé uniquement, je vais pas dire qu'il repose
mais
que
c'est
sur
quand même vachement basé là-dessus, puisqu'ils nous vendent un Wii Motion Plus pour ça. Hein.
Exactement. Je pense que ça va être très intéressant de voir si effectivement ça apporte un vrai plus dans l'aventure ou si on aurait préféré jouer avec sa manette.
Pour l'instant, avec la démo, je sais que tu n'y as pas touché, Théox, mais je peux te dire que c'est pas mal.
J'ai quand même un doute sur la finalité.
On saura vite.
Deux semaines, les gars, deux semaines.
Voilà, on saura vite si c'est le cas ou pas. Si on se projette dans l'avenir, Nintendo toujours aussi influent, est-ce que vous imaginez la PlayStation 4 et la Xbox 720 avoir une sorte de tablette comme manette.
Je ne pense pas, non. Je pense qu'ils vont encore miser sur les graphismes. Je pense parce que c'est la marque de fabrique de Sony.
Donc,
déjà.
Sur le multimédia, ils sont plus sur le côté multimédia pour moi. Non, Sony et Microsoft, pour moi, ne feront pas de tablette. Pour moi, ce n'est pas concevable à l'heure d'aujourd'hui. Même si on voit qu'aujourd'hui... Ils nous annoncent que la PS Vita sera compatible avec la PS3
parce
qu'ils sortent de manette.
D'accord, ils sont bien inspirés du motion gaming. Sony s'est clairement très inspiré de la Wiimote.
Tu
penses que le contrôleur de la Wii U ne fera pas de petit chez la concurrence?
Je pense que l'impact de la Wii U n'a pas encore été dévoilé.
Oh là là.
Ça n'a pas encore été dévoilé.
C'est avec cette grande interrogation que qu'on va arrêter le débat. Et puis pour le coup, c'est vraiment enregistré, Créo.
On verra bien.
On en reparlera.
Tu sais, moi aussi, mon Circle Pad, il est enregistré. Va réécouter les podcasts.
Ouais, voilà, exactement. Il faudra écouter.
On en reparlera dans les prochaines semaines, mais.
Prochain mois plutôt.
Mais on en reparlera.
Allez, on va parler rapidement des titres de la semaine qui sont pas forcément des grands indispensables. On commence avec BlazBlue Continuum Shift 2. Est-ce que j'ai bien prononcé ou pas, Arles?
Eh ben, il me semble bien, oui. Qui arrivera donc sur 3DS le 4 novembre, c'est-à-dire ce vendredi, donc aujourd'hui. C'est un jeu de combat assez classique, hein, comme on peut les connaître sur Street Fighter, tous ces genres de jeux, mais sur la 3DS. Et tu dis les jeux pas trop attendus, mais celui-ci est très très attendu par les joueurs. Je vois pas mal de commentaires passer disant on veut BlazBlue, on veut BlazBlue.
En tout cas, là, du coup, c'est vraiment la 3DS, c'est vraiment la console des jeux de combat. Hein.
Ouais, après Dead or Alive et Street Fighter, c'est une
Tekken
bonne.
Qui arrivera aussi.
Tekken également, c'est quand même une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas eu de jeu de combat ou pour ceux qui veulent. Vraiment avoir une expérience différente. Je pense que ça peut être sympa, surtout que c'est une licence assez reconnue quand même dans le milieu du jeu vidéo.
Pas à tel point de rivaliser avec un Street Fighter.
Non, c'est clair.
Et il revient chaque année sur Wii, PES fait son retour.
Oui, après FIFA 12 qui est sorti un peu plus tôt sur Wii. Donc c'est PES, le concurrent le plus sérieux de la licence d'Electronic Arts qui arrive.
Plus que le concurrent sérieux.
Ouais, grosse concurrence. L'ancien leader, on va dire.
Le leader même actuellement.
Oui, enfin, le match est assez différent sur console Nintendo. PES a largement l'avantage sur Wii. Hein.
Clairement.
C'est clair. Donc encore une nouvelle version de PES. Donc vous savez qu'elle est assez différente, comme vous venez de le dire. Donc une maniabilité... adapté à la Wiimote, donc c'est-à-dire qu'on peut diriger les joueurs et les directions de balles, il me semble, directement avec la Wiimote.
Une maniabilité très intéressante, selon
moi. Très, très intéressante.
Le vraiment bon atout de cette version.
Ouais, malheureusement, si on peut donner un gros défaut, ça restera quand même les graphismes qui restent un peu supérieurs à la PlayStation 2, donc c'est pas...
De toute façon, un PES, graphiquement, n'a jamais égalé un FIFA. Ça, c'est clair et net. Ça n'a jamais été comme ça. L'intérêt d'un PES, pour moi, c'est l'immersion, les techniques, la maniabilité. C'est ça, pour moi, un PES.
Ouais, un PES, c'est... Moi, je trouve que... Enfin, ayant pratiqué un peu de football, je trouve que c'est pas vraiment...
Ouais, mais
seulement
sur console de salon, parce que quand je te regarde...
Je trouve que c'est pas vraiment une bonne simulation de football. À proprement parler, c'est plus un jeu gris-gris, voilà. Tout,
mais t'es un fou,
tout plein de
tu
petits
vas te
trucs
faire
comme ça.
Démonter.
Je me ferai démonter, mais je suis sûr de ce que...
Fan de
mon
PES, on vous laisse parler avec Crayo. Hein.
Donc voilà, le jeu est sorti sur Wii hier.
Soit le 3 novembre.
Voilà, et sur Wii, donc une bonne alternative aux versions HD qui sont sorties un petit peu avant.
Allez, on passe aux questions des membres avec une première question écrite de Magic Killer. Quelle est la vraie date de la mise à jour de la 3DS? Le 4 ou fin novembre?
Alors on va se faire taper là.
Alors, le rédacteur en chef va déjà nous expliquer le problème.
Bon voilà, on s'est apparemment trompé sur la date de mise à jour de la console ou peut-être que le 4 novembre c'est au Japon, on ne sait pas trop, on s'est trompé, donc voilà, on s'excuse. Et on va mettre au clair les choses. La mise à jour de la 3DS, donc, qui apportera plusieurs... un renouvellement de l'eShop, les vidéos en 3D arrivera.
Et les démos de l'eShop.
Et les démos, exact, arrivera à la fin novembre si on en croit le site de Nintendo France. Donc, pas le 4, mais plutôt à la fin du mois.
Allez, on passe sur Skype avec Nathan Soufflé qui est avec nous. Comment ça va, Nathan?
Très bien, et vous?
Bah, ça va bien.
Merci. Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu as une question à nous poser?
Oui. Alors, vous préférez Mario Kart ou Super Mario 3D Land pour les fins d'année? Car j'hésite entre les deux. Et est-ce que Super Mario 3D Land est trop lourd à jouer? Parce que j'ai déjà vu vos critiques et apparemment il est assez lourd. Voilà.
Alors, oui. Arulz,
Alors moi je te confirme, pour l'avoir essayé donc à plusieurs reprises, que je trouve ce Mario assez lent, ouais, vraiment, vraiment très lent.
Oui, mais alors au point de renoncer à ce Mario-là, plutôt pas prendre Mario Kart si t'avais
alors,
le choix.
Alors si j'avais le choix, oui. Si j'avais le choix, oui. Franchement, ça me freine un petit peu la lenteur de ce Mario. Je reconnais pas Mario.
Je peux juste. Il y a quand même un bouton.
C'est une lenteur comment ? C'est une lenteur.
C'est une lenteur lente. Ah,
c'est-à-dire, en fait, non, comme, c'est très simple.
Comme allait le dire Crayo, il y a un bouton fait pour ça, mais tu te vois pendant deux heures rester appuyé sur ce bouton pour qu'il avance à une vitesse normale.
Non, mais c'est même, c'est-à-dire que donc il va un peu moins vite. Disons que voilà, il se déplace moins rapidement que sur Super Mario Galaxy.
Un peu plus boudiné, on va dire.
Un peu gros, quoi.
Et puis au niveau des sauts, c'est-à-dire que normalement un saut, la longueur, enfin la durée du saut, normalement, c'est ça saute et ça retombe. Bah, disons que là.
Il a tendance un peu à planer, on sait pas quoi.
Oui, voilà, ça, c'est un peu mou, quoi. C'est-à-dire qu'il saute, boum, il retombe.
On a tendance à le trouver un peu mou, ce Mario 3D Land. Ça mais n'enlève rien au jeu. Attention, c'est un jeu très intéressant en lui-même. Mais si j'avais, moi, personnellement, un choix à faire entre Mario Kart, même si c'est pas du tout les deux mêmes styles de jeu, et Mario 3D Land, je choisirais Mario Kart.
Et toi, Crayola, qu'est-ce que tu prendrais comme jeu ?
Alors, moi, je prendrais Mario Kart parce que.
Oh là là, putain, quel succès.
Enfin, moi, tu voulais prendre Mario 3D Land, toi ?
Enfin, moi, tu vois, ça, on retombe sur le calendrier chargé Nintendo, comme quoi il y a des joueurs qui vont faire des choix. Donc moi, je prendrais Mario Kart parce que je pense que c'est le jeu qui te tiendra le plus longtemps en haleine, j'ai envie de dire, avec le mode
en ligne. En plus, il est en ligne.
Voilà. C'est ça qui est intéressant dans ce
jeu. Donc
c'est
à toi de voir, mais après...
Non, mais honnêtement, Mario Kart, enfin... Ok, non, je vais adorer cet épisode, mais c'est un peu toujours la même chose, quoi.
Oui,
si on a acheté tous les épisodes, si on va avoir un peu de la nouveauté,
bah,
je pense qu'on aura plus de nouveautés et plus d'originalité dans Super Mario 3D Land.
Oui. Mais encore une fois, si c'est la lenteur qui te fait peur. Bon,
alors,
c'est pas Mario Kart. C'est pas non plus atroce hein, comme la lenteur.
Moi,
j'ai vraiment
du mal.
Il y a quand même une touche qui te permet de courir.
Ouais, mais tu dois la garder enfoncée. Je me vois pas jouer 2 heures avec la touche enfoncée pour qu'il avance à une vitesse, comme je dis, normale. Ça, franchement, ça m'enlève du gameplay.
Ah là là là, c'est dur.
Voilà, t'as fait.
Mais toi, tu pensais plutôt te diriger vers quoi alors, Nathan ?
Bah, moi, en fait, demain, je dois réserver un des deux jeux. Donc maintenant je suis un peu déçue parce que j'ai joué à tous les Mario depuis le début.
Ah.
Donc je suis un peu déçue, mais j'adore Mario Kart sur Wii, et comme le monde online est un peu pareil, je pense que je vais plancher pour Mario Kart.
Voilà, mais Mario 3D Land, attention, disons-le, ça reste un bon jeu. Hein.
C'est très bon jeu,
ça reste un bon Mario, hein, c'est sûr.
C'est quand même un mix entre Mario Galaxy et Mario Land, hein, par contre, faut savoir.
C'est pas ça.
Mario Galaxy.
Mais écoute, merci beaucoup Nathan Soufflet pour ta participation.
Merci à vous. Je suis très content d'avoir participé à ce podcast et j'espère vous retrouver en direct sur Skype. Voilà.
Allez, bah,
ok, bah, nickel.
Et ben merci.
Ciao.
Merci beaucoup.
Salut.
Elle a une autre question sur Skype. Il y a Tom94 qui est avec nous. Ça va, Tom ?
Oui, ça va. Et vous ?
Bah, très bien. Salut.
Très bien. Merci.
Très bien. Alors, quelle question tu veux nous poser ?
Alors, je me demandais, est-ce qu'on se rapproche de plus en plus d'une dématérialisation du jeu vidéo, comme Super Mario 3D Land inclut directement la notice dans le jeu lui-même ?
Alors, c'est une très bonne question que tu nous poses là. En effet, Mario 3D Land n'est pas le premier à le faire. En tout cas, chez Nintendo, c'est un des premiers à inclure la notice.
Donc là, mais récemment, il y a Batman Arkham City qui n'a pas de notice.
Forza 4 aussi, et beaucoup d'autres, mais on n'est pas chez, c'est pas chez Nintendo.
Alors, Nintendo s'y met, en tout cas.
Nintendo s'y met, effectivement, à enlever ses notices papier. Tout ça,
d'un
c'est
côté,
pour la déforestation.
Qui lit les notices ?
Moi. Je suis désolé, je lis
les beaucoup.
Pour moi, c'est un objet assez important dans un jeu.
Tom94, toi, tu les lis ou pas, les notices ?
Bah, moi, pour me passer le temps, et puis je trouve que c'est assez sympa. On se plonge bien dans le jeu et tout, je trouve que c'est sympa une partie ou un truc comme ça, je trouve.
Avant de commencer, c'est bien, j'aime bien.
Quand t'as acheté un jeu et que tu rentres chez toi, sur la route du retour, t'as le jeu dans ta main,
alors
tu dis
toi,
je peux
tu
pas le mettre dans ma console.
Parce que moi
maintenant je conduis, mais à l'époque je conduisais pas, mais avant que je conduisais pas, j'ouvre mon jeu, je lis la notice pendant que je suis en voiture, et comme ça quand je le mets dans ma console une fois arrivé chez moi, je suis content, je sais déjà de quoi. Les commandes par exemple, tu les connais déjà, t'as pas besoin de.
D'un côté, pour Super Mario 3D Land, on imagine déjà à l'avance les commandes par
exemple. Oui, mais c'est intéressant dans le sens où Bon, c'est pour la déforestation, hein, tout ça. C'est pour préserver les arbres. C'est bien de le faire.
C'est aussi pour économiser de l'argent et pour nous entuber.
Oui, surtout, je pense. Ouais.
Oui, mais la raison officielle pour tout le monde, ce sera les arbres. Hein. Sauvons les arbres. Ouais.
Surtout que le papier est recyclé.
Oui, mais bon, il la laisse en notice électronique. Moi, je suis pour cette avancée quand même.
Ouais, là, dans 5 ans, je pense qu'on aura droit en DLC payant. Je pense.
Une notice. Ah ouais, c'est ce que tu avais dit, je l'ai lu quelque part. Ça.
Toi, Tom 94, tu regrettes ça, justement, alors?
Bah, c'est pas que je regrette, mais moi, par exemple, si vous voulez, j'ai encore ma boîte de Nintendo Entertainment System de Super Mario Bros. 3, et de temps en temps, j'aime bien me taper des tripes, par exemple, et puis la lire pour nostalgie, ouais. Quoi. Ouais,
c'est un bel objet, une notice.
Voilà, c'est... C'est un objet de collection, par exemple, dans 5 ans, d'un jeu, par exemple, qu'on n'aurait pas forcément lu.
Ouais, et bah, dans 5 ans, je pense qu'on n'aura plus du tout de notice. On n'aura même plus du tout de support ça sera... au jeu, parce que ce sera que de la dématérialisation pour moi, il y aura du téléchargement et plus du tout de support.
De toute façon, on va arrêter là, de toute façon, ça sera un sujet qu'on abordera dans les prochains podcasts, c'est important, je pense.
Donc voilà, peut-être une raison de ne pas acheter Super Mario 3D Land en fin d'année.
Non, c'est faux, c'est
non,
pas
non,
une...
Non, 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 évidemment, on va pas limiter...
N'achetez pas Zelda, achetez Super Mario 3D Land.
Bah écoute, merci beaucoup Tom pour ta participation.
Oui, bah de rien, et puis bonne continuation à vous.
Merci. Merci. Merci.
Allez, ciao. Bye.
Ça y est, on y est, ça y est, c'est l'heure du jeu d'un Huls. Alors bon, on l'a vu la semaine dernière encore, hein, c'est vrai que les membres sont pas au niveau, hein, il faut le dire.
Attends,
hein.
Est-ce qu'on reparle de la semaine dernière, de notre performance? Et pourtant, visiblement, ça a plu. Merci de tous vos commentaires, hein, ça nous fait plaisir. Hein.
Là, on parle quand même des membres, vous êtes un petit peu... vous êtes pas au niveau.
Non, je peux pas te
même,
laisser
hein.
dire ça, je peux pas te laisser... T'es un fou.
Alors, attends, Cryo, donc du coup, met au défi à Huls. Alors c'est demain, parce que du coup, cette semaine, c'est Cryo qui va devoir subir...
Voilà, je vais vous montrer ce que c'est la... La puissance.
Je peux rire 100 ans s'il se foire comme une merde.
Je pense que je vais me foirer. Je prends mon verre d'eau.
Arus, allez.
Alors, cette semaine, j'ai préparé un petit jeu. Alors, c'est pas une licence de Nintendo de base. Il s'est associé depuis à Mario dans les jeux, par exemple, pour les Jeux Olympiques.
C'est Sonic.
Il fête ses 20 ans.
Un point.
Non. C'était pas la première question. Ça comptait pas. Il fête quand même ses 20 ans. C'est une figure emblématique du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de jeux chez Nintendo. Donc je me dis que un petit jeu sur les origines un petit
Surtout
peu de Sonic
des,
et tout ça.
Il y a des rumeurs sur un futur.
Oui, il y a quand même un Sonic Dimension qui serait développé par Nintendo lui-même et la Sonic Team, quoi.
Restons quand même prudents.
Oui, mais ça annonce du bon quand même
sur
pour
Wii U.
L'avenir. Oui, sur Wii U, bien sûr. Donc un petit jeu Sonic avec des questions parlant de cette mascotte de chez Sega.
Tu veux faire monter la pression, c'est ça?
Écoute, ça se passe toujours comme ça dans les jeux, il y a toujours un quart d'heure avant où le mec blablate et il y a 30 secondes de questions. T'as pas remarqué ça dans les jeux télé? Bon, passons. On va passer tout de suite à la première question vu que t'as l'air pressé.
Balance.
Sonic a pris la place d'une mascotte de chez Sega. Mais qui? Bah vas-y, t'as l'air de rire, vas-y, dis-moi le nom.
Alex Kidd.
C'est ton dernier mot, Cryo?
Tout à fait.
Et effectivement, c'est bien Alex Kidd. Ce gars-là a donc créé clairement de base pour concurrencer Mario et pour remplacer sa mascotte qui n'accrochait pas trop au public de l'époque.
C'était mon premier jeu, donc tu pouvais pas m'avoir là-dessus.
Ah oui, d'accord. Donc dans ces cas-là, effectivement. Donc on va passer à la deuxième question tout de suite. Quelle couleur n'existe pas dans les Chaos Emeralds? Réponse A, jaune. Réponse B, bleu. Réponse C, blanc. Réponse D, rouge.
Ah, il fait la tête, ça, Cryo.
Ah, ouais, c'est rouge.
C'est ton dernier mot, Cryo?
Bah oui, j'ai pas le choix, de toute façon.
Aïe, c'est le blanc. Le blanc n'existe pas dans les Chaos Emerald.
Ok, j'ai pensé à Color, c'est pour ça.
Ah. Tout va se jouer.
Sur la dernière question.
Alors, dernière question, dans quelle forme Sonic ne s'est-il jamais transformé? Réponse A, Polar Sonic. Réponse B, Echo Sonic. Réponse C, Mega Sonic. Réponse D, Dark Sonic.
Je dirais Echo Sonic.
Est-ce que c'est ton dernier mot, Cryo?
C'est mon dernier mot, Arulz.
Ah, Et c'est un gros ratage. Il ne s'est jamais transformé en Mega Sonic.
Ok.
Oh là là, donc, là il faisait le malin au début, il me semble, hein, quand même.
Ah là, je pense que les membres vont pouvoir le
mais
vanner.
Mais je pense qu'il se marre là, à l'heure actuelle.
Bah, vous pouvez vous marrer, c'est pas grave. J'ai gagné
donc,
un
les commentaires sont là pour les commentaires sont là pour ça. Hein. N'hésitez pas à dire ah tu te moquais de nous et maintenant tu fais moins le malin.
Hein. Faudra que je prenne en défi un membre.
Et le plus drôle, c'est que quand même au départ, il nous disait moi Sonic, je connais parfaitement.
C'est vrai, bah je me suis trompé, apparemment.
Ah, il pleure là, les gars. Excusez-moi. J'ai quand
même une bonne réponse.
T'aurais donné une bonne réponse, mais parce que t'avais joué au jeu.
Voilà. Bon, Créo, on va te laisser te consoler.
Ouais, bah écoutez, hein, je pense que je me suis ridiculisé devant toute la France.
Oh non, on n'est pas sur Sega.
Et même
Master.
Les États-Unis.
On n'est pas sur SegaMaster.com.
C'est vrai.
Par contre, normalement, la semaine prochaine, podcast un peu différent.
Un tout petit peu différent, pas énormément, on va parler.
Et oui, il
n'y
aura pas Créo. Enfin.
Je serai parti à la défaite, ma licenciée. Donc oui, on va parler des gameuses dans le jeu vidéo, donc on va laisser notre place un petit peu aux filles, enfin aux nanas qui jouent au jeu vidéo.
Je vais mettre une perruque alors.
Voilà. Donc normalement, si tout va bien, ça devrait avoir lieu la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Et donc quelques rédactrices ou de joueuses tout simplement qui viendront nous parler de leur expérience dans le jeu vidéo.
Et du coup, n'hésitez pas quand on va poster le petit post, si vous avez des questions pour elles, des questions à poser aux gameuses, n'hésitez pas à les mettre, on les posera avec grand plaisir.
Eh bien, le rendez-vous est pris la semaine prochaine en bonne compagnie. Messieurs, je vous dis au revoir.
C'est sûr.
À la semaine prochaine. Salut. C'est sûr.